Jamais je n'entreprendrai guerre que je n'ai essayé tous les moyens de paix. Rabelais. Mille ans d'histoire. Jamais le monde n'a été aussi près d'une guerre nucléaire. Tout avait commencé le 14 octobre 1962. Ce jour-là, à 20 000 mètres au-dessus de Cuba, un avion espion américain U-2 prenait des photos qui allaient déclencher la crise la plus grave de la guerre froide. On y voyait des missiles soviétiques capable de porter des charges nucléaires de 3 mégatonnes et d'atteindre le quart sud-est des États-Unis. Le 16 octobre, au matin, après avoir été analysé par des spécialistes du Pentagone, ces clichés étaient montrés au président Kennedy, qui à 11h45 convoquait à la Maison-Blanche les plus hauts responsables politiques et militaires des États-Unis. En tout, une quinzaine de personnes, avec lesquelles pendant 13 jours, il allait prendre dans le plus grand secret des décisions qui allaient mettre le monde au bord du gouffre.
Je vous écoute.
Arthur ?
Messieurs, comme vous devez le savoir, un U-2 en mission dimanche matin a pris une série de clichés inquiétants au-dessus de Cuba. Notre analyse au NPIC est que l'Union soviétique a poursuivi sa politique d'accroissement des armements conventionnels à Cuba par l'introduction de missiles balistiques sol-sol de moyenne portée. Jusqu'à présent, nous avons identifié 32 missiles dont la maintenance est assurée environ par 3400 hommes, vraisemblablement tous des soviétiques. Nos villes et nos installations militaires du sud-est jusqu'au nord, en comprenant Washington DC, sont à portée de ces missiles.
Combien de temps reste-t-il avant qu'ils soient opérationnels ?
Le général Taylor répondra mieux que moi à cette question.
Le GMIC, la commission d'information sur les missiles, l'évalue à une durée de 10 à 14 jours.
Nous devons éradiquer ces missiles d'une manière ou d'une autre. Je vois actuellement deux options. Soit nous mettons en branle une combinaison d'action et de pression au niveau international jusqu'à ce qu'ils cèdent, soit nous les attaquons par une frappe aérienne.
Eh bien, c'est clair, nous ne pouvons pas tolérer des missiles nucléaires soviétiques à Cuba.
Pierre Valeau, bonjour.
Bonjour.
Dans un livre écrit avec Mathilde Eckart, L'équilibre de la terreur, vous rappelez quelques moments dramatiques de la guerre froide depuis l'écrasement de la révolte hongroise par l'armée rouge en 1956 jusqu'à son intervention en Tchécoslovaquie en 1968. Et parmi ces événements, cette crise des missiles de 1962 qui a marqué l'apogée de la guerre froide. Jamais, dites-vous, l'équilibre de la terreur n'a été aussi près de se rompre. Jamais on n'a été aussi près d'un conflit nucléaire qu'à cette époque, Pierre Valeau.
Oui, en effet, parce que il est clair que depuis 1945, un rapport de force extrêmement vigoureux s'est instauré entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux titulaires du leadership mondial, et que ce rapport de force est d'abord un déséquilibre. Jusqu'en 1949, les Américains sont les seuls à disposer de l'arme nucléaire. À partir de 1949, il va y avoir une sorte de course-poursuite qui va atteindre donc, je le disais, son apogée, en tout cas son apogée politique et militaire, pas nécessairement son apogée scientifique et technique, avec la crise de Cuba en 1962. Et jusqu'alors, se met en place un rapport de force international que l'on peut lire sur le terrain et qui partage le monde. Alors, de manière tout à fait, décidée des deux côtés, mais sur les marges, et les marges parfois peuvent être larges, c'est le cas en Corée, c'est le cas en Chine, c'est le cas aussi en Europe centrale, on voit très bien se mettre en place, soit des États tampons, soit des États satellites, etc. Or, il est absolument évident que ce que l'on considère comme un rapport de force à peu près équitable, égal entre les deux puissances, est un faux rapport de force équitable. En réalité, les Américains, comme les Soviétiques d'ailleurs, et en cela ils ont ce qu'on appelait à une certaine époque une sorte d'intérêt objectif à dire la même chose, les Américains ont tout à fait intérêt à faire croire que l'ennemi soviétique est véritablement un bloc homogène, et qu'il est extrêmement dangereux. Or, les Soviétiques viennent de perdre 27 millions d'habitants, leur territoire est ravagé, ils sont extrêmement pauvres, ils sont endettés, ils refusent le plan Marshall. Et donc la diplomatie, entre guillemets, soviétique, c'est la diplomatie de la coercition et du char. En face, on a les Américains qui, alors encore plus qu'après le premier conflit mondial, sont devenus les premiers banquiers du monde, les premiers industriels. Il n'y a pas une tuile de cassée sur le territoire, à part Pearl Harbor, sur les territoires proprement dits des États-Unis. Et le nombre de victimes, c'est à peu près 500 000 morts, ce qui n'est pas dérisoire. Mais par rapport à 27 millions de morts en face, il est clair que l'un ayant l'arme atomique et l'autre n'ayant pas, et les dégâts faits par la Seconde Guerre mondiale étant très, très, très différents, on n'a pas un équilibre.
Alors, à partir du moment quand même où les deux ont l'arme nucléaire, même s'il y a un déséquilibre en faveur des États-Unis, eh bien, il se produit cet équilibre de la terreur. On n'a pas envie de déclencher, évidemment, une guerre nucléaire, ou on n'ose pas le faire, parce que, justement, elle serait terrifiante pour tout le monde. D'où l'absence totale d'intervention, par exemple, ou même de réaction américaine en 1956, lorsque, dans sa sphère d'influence, l'URSS brise dans le sang la révolte des Hongrois. Pas plus, d'ailleurs, qu'il y a de réaction américaine en 1961, quand est construit le mur de Berlin. C'est l'affaire des Russes et les Américains n'interviennent pas. En revanche, là où les choses deviennent plus compliquées, c'est lorsque Cuba, en 1959, devient, enfin, lorsque Castro prend le pouvoir à Cuba. Il n'est pas considéré tout de suite comme un danger par les Américains, car à l'époque, il affirme qu'il n'est pas communiste, Pierre Valot.
Alors oui, tout à fait. Alors non seulement il l'affirme, mais il ne l'est pas. L'entreprise castriste est une entreprise, disons, de déstabilisation d'un pouvoir dictatorial. Ça ne déplaît pas d'ailleurs aux Américains et les Américains vont laisser faire Castro. D'ailleurs, quand Castro va aller aux États-Unis, il va redéclarer de manière extrêmement explicite qu'il n'est pas communiste, qu'il ne sera jamais communiste. Et les Américains, pendant un certain temps en tout cas, se font véritablement, non pas les défenseurs, mais en tout cas les protecteurs de ce changement.
Oui, mais à partir du moment où il commence à menacer les intérêts économiques des États-Unis dans son île, il y a un embargo de la part des Américains, des difficultés d'approvisionnement pour Cuba, et Castro se tourne alors vers le numéro 1 soviétique, Khrouchtchev, qui, il le confirme d'ailleurs, devant des journalistes américains, il en donne les raisons devant les journalistes américains, lorsqu'il voyage, vous l'avez dit, à New York en 1959.
What do you want that we do? You leave us without petroleum. Khrouchtchev, eat petroleum.
Que voulez-vous que nous fassions? Vous nous privez de pétrole, Khrouchtchev nous en donne. Vous refusez notre sucre, Khrouchtchev nous l'achète. Vos dirigeants parlent d'agresser Cuba, Khrouchtchev parle de défendre Cuba. Khrouchtchev est un ami. Khrouchtchev. Vive le peuple révolutionnaire de Cuba. Vive le chef de la révolution cubaine, Fidel Castro.
Alors là, c'était en 1959. À ce moment-là, Pierre Valot, eh bien, Castro, Cuba, devient dangereux, ou deviennent dangereux pour les États-Unis. Alors, qu'il y a un accord qui va se faire pour, sur le plan militaire.
Alors, tout à fait. Alors, il y a un accord, disons, militaro politico-économique entre l'Union soviétique et Cuba. Grosso modo, c'est du sucre dont l'Union soviétique a peut-être besoin, mais pas à ce prix-là, contre des armes et contre du pétrole. Et il y a une liaison permanente, par exemple, pour le pétrole entre avec des tankers soviétiques entre l'Union soviétique et Cuba. Et donc, il est clair que là, on sort de cet équilibre qui s'était établi d'un point de vue territorial et que l'Union soviétique intervient de plus en plus dans une sphère qui est évidemment la sphère américaine, mais une sphère américaine très très proche. Hein. On est à quelques encablures des côtes des États-Unis.
Alors le danger justement que représente Cuba pousse Kennedy, qui vient tout juste d'être élu, d'arriver à la Maison-Blanche, à entreprendre ou essayer de renverser Castro par une opération faite avec des exilés cubains anticastristes, mais avec la protection de la CIA, on s'en rendra compte, c'est la fameuse opération, le fameux débarquement de cubains anticastristes dans la baie des Cochons, Pierre Valot.
Alors, pour bien comprendre la signification de ce débarquement, il faut savoir dans quelles conditions Kennedy a été élu. En politique étrangère, il avait à sa disposition, qui ont d'ailleurs fonctionné, deux grands thèmes. Il faisait deux reproches aux républicains. Un premier reproche, c'était d'avoir laissé Cuba dériver d'abord comme électron libre et ensuite vers l'URSS. Et deuxièmement, les Américains à cette époque-là, et Kennedy le pense également, et en tout cas ça fait partie de sa campagne électorale, considèrent que les Soviétiques sont beaucoup plus avancés en termes d'armement, et en particulier d'armement nucléaire. Donc il est élu sur cette thématique-là. Après son élection, eh bien, il va continuer finalement à faire des gestes qui correspondent à ses thèmes de campagne, mais qui en réalité ne correspondent pas véritablement à ce qui se passe sur le terrain. Cuba est dangereux, mais ce n'est pas dangereux à ce point-là. C'est plutôt sur les principes. C'est-à-dire que Cuba est au balcon des États-Unis et là, il ne pourra pas le tolérer. Donc, les Américains vont essayer de mener une opération, l'opération de la baie des Cochons, où 1300 mercenaires, si mes souvenirs sont exacts, en avril 1961, vont tenter un débarquement à Cuba. C'est un échec. C'est un échec d'ailleurs retentissant. Et ça donne l'occasion, bien sûr, à Khrouchtchev de gesticuler, de parler de brigandage, de tout ce que l'on veut, etc. Et de renforcer encore, évidemment, sa mainmise sur Cuba.
Et sa présence militaire, parce qu'à ce moment-là est décidée donc l'installation sur l'île, sous prétexte de la défendre d'une nouvelle agression américaine, d'installer sur l'île des missiles de moyenne et même de longue portée, pour certains, en tout cas d'une portée qui pouvait dépasser les 2000 km à Cuba. Alors ça se fait évidemment dans le plus grand secret, cette opération. Mais là, est-ce que Khrouchtchev ne sous-estime pas la capacité de réaction de Kennedy? On dit souvent qu'il s'est dit qu'après, au fond, Kennedy n'ayant pas réagi en 61 avec la construction du mur, ayant subi ce camouflet de la baie des Cochons la même année, bah, peut-être que Kennedy ne réagira pas.
C'est-à-dire que Khrouchtchev, qui est un vieux routier de la politique, hein, Khrouchtchev était déjà des principaux responsables du Parti communiste lors des pogroms d'Ukraine en 1938, c'est un stalinien pur sucre, etc. C'est quelqu'un qui connaît tous les arcanes de la politique mondiale. Effectivement, il sous-estime Kennedy. Il le prend pour un débutant. Et c'est vrai que Kennedy, au départ, se comporte un peu comme un débutant. Et il pense que les Américains ne vont pas mettre un coup d'arrêt à cette agression absolue. Parce que s'il n'avait pas bougé en 1956 pour Budapest, comme vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est que finalement, ça rentrait dans l'ordre des choses. C'était dans l'ère soviétique. Alors que Khrouchtchev, la même année, menace de l'arme atomique la France et la Grande-Bretagne s'ils ne se retirent pas de Suez. Il y a véritablement des règles qui se sont établies et que l'un et l'autre respectent. Là, Kennedy, à juste titre, considère que les Soviétiques n'ont pas respecté ces règles.
Alors justement, il découvre un avion U-2 volant à très haute altitude, découvre l'installation de ces missiles. Cela dit, Kennedy attend 8 jours avant de le révéler aux Américains et de leur annoncer en même temps d'ailleurs sa décision. C'était le 22 octobre 1962 à 19h sur toutes les chaînes de radio et de télévision des États-Unis.
President Kennedy will address the nation tonight on radio and television on a subject of the highest national urgency.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Le gouvernement, comme promis, a maintenu la plus étroite surveillance sur l'accroissement militaire soviétique sur l'île de Cuba. Au cours de la semaine passée, des preuves irréfutables nous ont permis de constater que des bases de missiles offensifs sont actuellement mises en place sur cette île prisonnière. Si des préparatifs militaires devaient se poursuivre, augmentant ainsi les menaces contre notre hémisphère, de nouvelles actions seront justifiées. J'ai donné l'ordre aux forces armées de se tenir prêtes à toute éventualité. La politique de notre pays sera de considérer tout missile nucléaire lancé de Cuba contre un pays de l'Occident comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, nécessitant des représailles massives contre l'Union soviétique.
upon the Soviet Union.
Alors c'était donc le président Kennedy le 22 octobre 62. Il révèle d'une part la présence de missiles soviétiques à Cuba. Il évoque même l'éventualité d'aller très loin jusqu'à des représailles massives, c'est-à-dire l'emploi de l'arme nucléaire si jamais ces missiles étaient utilisés. Mais surtout, il prend une décision qui est de mettre en quarantaine Cuba, de mettre un blocus sur Cuba. On ne veut pas utiliser le mot blocus parce que c'est un mot de guerre, mais le mot de quarantaine qui est employé. Alors il faut savoir que pendant 6 jours, à la Maison Blanche, on s'est demandé ce qu'il allait faire. Il y avait plusieurs options possibles, puisqu'il y avait autour de Kennedy tout un groupe de gens, des militaires, le secrétaire à la Défense, le secrétaire également le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a plusieurs options. D'abord, une option politique, hein, défendue par les plus modérés. On va protester contre cette présence de missiles. On va exiger verbalement leur retrait, Pierre Valo.
Oui, alors, il y avait effectivement plusieurs positions qui vont de cette position modérée, qui est une attitude d'ordre diplomatique, très vite décriée par les autres participants à ce débat, parce que considérée justement comme trop molle comme position. Et justement, après ce qui s'est déjà passé à propos de Cuba, on dit, bon, maintenant, il va falloir mettre un coup d'arrêt. Il y a une option également politique qui est à moyen terme, où on veut faire appel aux alliés, etc. Il y a une option militaire, alors qu'elle, ça c'est les faucons du Pentagone qui est radical, une action militaire, c'est-à-dire des bombardements aériens,
sur Cuba,
destruction ouais. sur Cuba, destruction évidemment des hommes des milices, des zones des missiles, pardon, et une invasion pour mettre un terme, évidemment, aux velléités cubaines et soviétiques de menacer les États-Unis. Et puis, il y a cette
avec
proposition...
un risque dans cette...
Ah oui, de riposte,
dans cette... de riposte nucléaire, oui. À partir au moins de Cuba avec ses missiles qui avaient des charges nucléaires.
Bien sûr. Mais en même temps, le débat, il faut toujours savoir que le débat est évidemment un petit peu difficile parce que non seulement les Américains ne savent pas jusqu'où les Soviétiques sont prêts à aller, mais quels sont les moyens réels dont ils disposent pour cette éventuelle riposte. Alors, ce qui va être adopté comme position, et on y faisait allusion tout à l'heure, c'est de mettre effectivement, et c'est un euphémisme, en quarantaine l'île. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus aucun bateau ne va pouvoir s'approcher de Cuba, que tous les cargos, et alors là, il s'agit de cargos particuliers, tous les cargos qui sont en train de s'approcher de Cuba vont être arraisonnés par la flotte américaine et, le cas échéant, arrêtés, et que s'ils ne stoppent pas immédiatement, eh bien, ils seront coulés. Donc, c'est vraiment un acte de guerre. Or, que se passe-t-il à ce moment-là ? Il y a un certain nombre de cargos chargés, entre autres, d'armes, qui viennent renforcer ces bases de missiles sur l'île, qui sont en train d'arriver. Et le dispositif de la quarantaine se met en place et il va y avoir un face-à-face qui va durer pendant plusieurs jours et qui va faire trembler le monde.
6 jours, on se demande effectivement ce qui allait se passer. Est-ce que les cargos soviétiques allaient essayer de forcer ce blocus ou plutôt cette quarantaine? Et on attend évidemment avec angoisse la réaction soviétique à Moscou, Bernard Ulman, le 23 octobre 1962.
Le silence total encore ici au début de l'après-midi. Sur les intentions du gouvernement soviétique au lendemain du discours fracassant du président Kennedy. Tandis que de tous les coins du monde retentissent les échos de l'avertissement américain que Cuba proclame une mobilisation générale, un porte-parole du ministère soviétique des Affaires étrangères déclarait ce matin qu'il n'avait pas eu le temps encore de prendre connaissance des dernières nouvelles de Washington. Jamais pourtant, depuis bien des années, de l'avis général des observateurs de Moscou, la situation n'a paru aussi menaçante que ce matin. Alors que ces derniers jours régnait ici une atmosphère relativement optimiste quant à la poursuite du dialogue russo-américain sur Berlin, l'arrêt imprévu de M. Gromyko rentrant de Washington à Berlin-Est pour y rencontrer M. Ulbricht laisse présager une relance de la crise là aussi.
Then I told old Khrushchev. Sitting there looking bad. Get that junk out of Cuba before you make me mad. Dig up them missile bases. Take them planes and all. Or grab me a bat. Use your head for the balls. It was a dream.
dream I had last night. Et c'était Louisiana Red, une chanson chantée justement à l'occasion de cette crise de Cuba, pendant laquelle évidemment tout le monde a eu très peur qu'elle dégénère en conflit nucléaire. Or très vite on se rend compte que Khrouchtchev d'abord fait demande aux navires qui sont en route vers Cuba eh bien, de faire demi-tour vers l'URSS et accepte, ou en tout cas écrit le 25 octobre une lettre à Kennedy dans laquelle il parle de négociations. Comment expliquer cette reculade entre guillemets de Khrouchtchev?
Je crois que Khrouchtchev se rend compte très rapidement qu'il est allé trop loin, parce que si les Américains ne savent pas exactement quelle est sa puissance et sa détermination en matière de feu nucléaire. Lui, il sait très bien qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur. Alors, même en n'étant pas tout à fait à la hauteur, s'il y avait eu un affrontement nucléaire, c'eût été pour le monde entier une catastrophe absolue. Et je pense là, c'est ce que nous disons dans notre livre sur l'équilibre des terreurs, c'est aussi un équilibre de l'horreur. Je crois que c'est une chose, d'une part, de bombarder Hiroshima et Nagasaki comme ça, il faut déjà en prendre la responsabilité, mais détruire l'ensemble du monde, ou une très grande partie du monde. Alors on sait bien, Mao Tse-tung disait qu'il y aurait...
Il resterait la moitié
de la population du monde disparaîtrait. Ensuite, il y aurait une révolution mondiale et l'autre moitié deviendrait socialiste. Alors c'est assez rassurant, mais c'est un peu cynique. Or Khrouchtchev a bien conscience du rapport de force. Et en fait, il n'est pas tellement soutenu en Union soviétique même.
Alors cela dit, personne évidemment ne peut ou ne veut perdre la face. Khrouchtchev quand même pose des exigences, négocier d'accord, on est prêt à retirer nos missiles à condition que vous retiriez vous-même, vous les Américains, des missiles de moyenne portée installés et opérationnels depuis 61 d'ailleurs, depuis quelques mois, en Turquie, des missiles nucléaires Jupiter, et que vous garantissiez la sécurité de Cuba, c'est-à-dire que vous Américains, vous vous engagiez à ne plus jamais menacer ou attaquer Cuba. Donc c'est quand même un deal qui est en train de se faire.
Alors là, l'intelligence américaine, c'est de laisser une porte
de sortie
de
à Khrouchtchev.
À Khrouchtchev et à la diplomatie. Soit c'est l'impasse militaire et on s'affronte, soit il faut trouver un biais. Puis effectivement, il ne faut pas humilier l'adversaire et puis il faut qu'il soit encore crédible dans son propre camp. Et donc Kennedy va accepter le retrait des fusées de la Turquie, ce qui est quelque chose de tangible et que Khrouchtchev peut rapporter auprès des siens en disant voilà, on a fait reculer les Américains. Et puis deuxièmement, évidemment, il y a aussi la situation de Cuba. On ne peut pas faire comme si, alors qu'on est en train de plier bagages, on ne peut pas faire comme si Cuba était abandonné, parce que sinon on ne serait plus crédible par rapport aux autres.
C'est les Russes.
Oui, les Russes, pardon, oui. Par rapport aux autres satellites. Et il exige effectivement que les Américains ne se lancent plus dans des aventures du type baie des cochons.
Alors ce qu'accepte Kennedy, le 28 octobre, un accord est finalement signé, le monde respire, mais vraiment on était très près d'un conflit majeur, et tout le monde au fond avait la volonté de négocier, d'essayer toutes les chances de la paix. C'est pour ça que j'avais mis cette citation de Rabelais en début d'émission, « Jamais je n'entreprendrai guerre que je n'ai essayé tous les moyens de paix ». Tout le monde finalement veut éviter, comme vous dites, cette espèce d'escalade vers l'horreur. Kennedy finalement pouvait annoncer quelques jours plus tard la levée de l'embargo, mais de la quarantaine. C'était le 22 novembre 1962.
J'ai demandé cet après-midi au secrétaire de la Défense de lever notre quarantaine. Et nous sommes prêts à continuer nos efforts pour mettre en œuvre cet accord. Mais il reste beaucoup de problèmes. Pour nous, si tout le système d'armes offensives est retiré de Cuba et mis désormais à l'écart de cet hémisphère avec un contrôle adéquat, et si Cuba n'est pas utilisé pour l'exportation d'idées communistes agressives, la paix régnera sur les Caraïbes. Et comme je l'ai dit en septembre, nous n'engagerons ni ne permettrons une agression dans cet hémisphère.
Alors, on a présenté cette affaire comme une victoire américaine. On se rend compte, ne serait-ce qu'avec ce que vient de dire Kennedy, qu'il y a eu une concession majeure. Il s'engage à ne jamais intervenir, plus jamais, à Cuba, comme il avait fait à l'époque de la guerre des cochons. D'ailleurs, c'est pour ça que, depuis 48 ans, le régime cubain est encore en place. Pierre Vallot.
Oui, alors, on peut même se demander si... alors, bon, évidemment, c'est de l'histoire fiction, mais si Kennedy avait été plus ferme à ce moment-là, alors ça supposait évidemment qu'il ait une connaissance plus précise du rapport de force nucléaire. Mais enfin, là, il avait vu quand même que les Soviétiques reculaient. On peut imaginer qu'il aurait pu aller plus loin et mettre véritablement en difficulté Khrouchtchev. Mmh. Mais Khrouchtchev est déjà mis en difficulté, puisque ça va être un des éléments qui va le conduire à sa disparition politique.
Cette affaire a marqué l'apogée de la guerre froide, c'est-à-dire que justement les choses allaient ensuite évoluer vers ce qu'on appelait la coexistence pacifique. Ce n'était pas encore la fin de la guerre froide. Il y a quand même une conséquence importante. Par exemple, la Chine qui rompt définitivement avec l'URSS. C'est l'occasion de cette rupture qui est monumentale dans le monde communiste. Mao Tse-tung accusant au fond Khrouchtchev d'avoir été aventureux en entreprenant cette affaire et lâche ensuite en cédant finalement devant les Américains. Les conséquences quand même sont considérables de cette crise de Cuba, même si elle n'a pas dégénéré en guerre nucléaire.
Alors là, effectivement, les propos que vous venez de citer de Mao Tse-tung sont parfaitement représentatifs du différend qui existe entre l'Union soviétique et la Chine et du vocabulaire qui va être désormais employé à propos par les Chinois à propos des révisionnistes soviétiques. C'est un schisme qui est en train de se produire et précisément parce que la Chine et l'Union soviétique n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques. Géostratégiques et n'ont pas les mêmes intérêts, justement, vis-à-vis des États-Unis.
En tout cas, c'est maintenant l'établissement d'une règle, dites-vous, non écrite, Pierre Valo, c'est-à-dire que tout le monde est bien décidé à ne plus intervenir dans la sphère d'influence de l'autre, chacun des deux camps.
Alors, en tout cas, directement. Hein, on ne va pas plus risquer ce qui s'est passé pendant la crise. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le 27, il y a un navire américain qui éprône un sous-marin soviétique. C'est-à-dire que si le capitaine soviétique n'avait pas fait preuve de sang-froid, c'était la guerre. Donc, à partir de ce moment-là, véritablement, on va essayer, par personne interposée, de gagner de nouveaux territoires, mais on ne s'affrontera plus directement.
On verra en 68, par exemple, les États-Unis ne pas intervenir lorsque les Soviétiques vont mater, si je puis dire, le fameux printemps de Prague en 1968. Merci en tout cas, Pierre Valo, de nous avoir rappelé cette crise que l'on retrouve dans un livre que vous avez écrit avec Mathilde Eckart, L'équilibre de la terreur, 1956-1969, publié aux éditions Acropole, dans la collection Les dossiers de la guerre froide et dans lequel donc, vous évoquez cette crise de Cuba dont nous venons de parler avec vous. Vous avez pu entendre un extrait du film 13 jours de Roger Donaldson, disponible en DVD chez Metropolitan Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Julien Dumont et Mathias Alléon. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, à l'occasion du 65e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz, la libération des camps.